Alors, j'ai pas eu à chercher très longtemps sur Internet pour trouver un exemple de ce que le texte d'aujourd'hui dénonce avec une certaine sévérité. Voici l'extrait d'une prédication toute récente d'un pasteur réformé. Dois-je ajouter qu'il est membre de la Fédération protestante de France? Oui, je l'ajoute, allez. Qui évoque le récit de la multiplication des pains dans l'évangile selon Jean. Et voici ce qu'il dit dans le cadre de sa prédication. Ce texte est un signe. La qualité de la nourriture qu'offre le garçon évoque des richesses spirituelles. 5 pains d'orge. Ce chiffre 5 évoque la Torah, la Bible, et la Bible est souvent comparée à un pain dans la Bible elle-même. C'est vrai qu'elle a fait ses preuves comme nourriture pour la réflexion et la prière de chacun, de génération en génération, et sous toutes les latitudes. 2 poissons. Ce chiffre de 2 évoque la parole, et le poisson évoque la vie spirituelle, grandissant sans cesse, gardant toujours l'œil ouvert, évoluant sans cesse dans l'eau de la bénédiction. Vous savez comment on appelle ce genre de discours poliment? Du pipeau. Je vous donne un autre exemple, copié-collé depuis le site internet de la même église, réformée, mais un pasteur différent, pas un pasteur différent. Cette fois, il parle de la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 15. Voici ce qu'il dit. Tenez-vous bien, c'est compliqué. Dieu nous dit que notre avenir est d'abord ce que nous en ferons, et qu'il est d'abord le fruit du regard que nous portons sur notre présent. C'est pour cela qu'il nous aide à y voir plus clair dans notre vie, qu'il nous aide à mieux nous comprendre que nous nous comprenons nous-mêmes, qu'il épaissit le trait de cet horizon que nous avons face à nous en nous révélant à quel point nous sommes capables de certains accomplissements. La promesse de Dieu, ce n'est pas une prédiction sur l'avenir, mais la révélation de ce que nous sommes capables d'accomplir d'ores et déjà, en nous laissant la liberté d'emprunter le chemin que nous voulons pour nous rendre vers cet horizon qu'il redéploie constamment devant nous. Vous avez compris quelque chose? Ça sonne bien. Ça sonne bien, mais c'est du pipeau. Ça reflète une très mauvaise théologie, mais surtout, c'est une manipulation coupable de la parole de Dieu pour lui faire dire des choses qui ont l'air bien, mais franchement qui sont ridicules. Et c'est cela précisément que Paul veut dénoncer dans ce texte au moment de conclure sa lettre à Timothée. La dernière fois, on avait vu que Paul était déjà en train de conclure sa lettre, vous vous rappelez, lorsque tout d'un coup, il s'est souvenu d'un truc qu'il voulait dire et qu'il voulait rajouter, au sujet notamment des riches, des chrétiens qui étaient riches, des chrétiens qui avaient beaucoup d'argent. Alors, il a ouvert cette courte parenthèse qu'on a étudiée la dernière fois, versets 17 à 19. Mais maintenant, il faut donc qu'il conclue pour de bon. D'accord? On ne peut pas finir une lettre sur une parenthèse, donc il faut bien qu'il donne quelques paroles conclusives. Et alors, comme tout bon pédagogue devrait le faire, il conclut en rappelant l'idée principale de toute sa lettre. Le point vraiment important qu'il veut que Timothée retienne avant tout. Et cette idée, c'est la suivante. Il est impératif de rester attaché à la parole authentique de Dieu. Il est impératif de rester attaché à la parole authentique de Dieu. Alors je vous invite à lire le texte, c'est un texte assez court, c'est que 2 versets, hein, les 2 derniers versets de l'épître de Paul à Timothée. Les versets 20 et 21, donc, du chapitre 6. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. Que la grâce soit avec vous. Mes amis, je vous invite à la prière avant de poursuivre. Nous reconnaissons, Seigneur, combien précieuse est ta parole. Tu nous l'as donnée pour que nous puissions mieux te connaître, mieux te servir, mieux te faire connaître. S'il te plaît, conduis-nous maintenant dans ces moments de réflexion autour de ta parole. Et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre pour appliquer ta parole à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous pose une question, plusieurs questions. Qu'est-ce que vous cherchez chez un prédicateur, chez un pasteur qui se lève le dimanche pour prêcher? Qu'est-ce que vous recherchez dans une église, notamment quand vous déménagez, vous changez de région pour des raisons professionnelles, et puis le moment est venu de vous joindre à une église locale avec d'autres chrétiens? Qu'est-ce que vous recherchez? Je dirais même plus, qu'est-ce que vous recherchez dans la musique chrétienne que vous écoutez, que vous achetez peut-être sur Internet ou à la librairie chrétienne du coin? Qu'est-ce que vous recherchez dans les livres d'édification que vous lisez? Qu'est-ce que vous recherchez sur les sites internet chrétiens que vous consultez? Qu'est-ce que vous recherchez? Je vais vous dire ce que Paul veut que vous y recherchiez. La fidélité à la parole authentique de Dieu. Voilà ce que vous devez rechercher. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur ce point? Eh bien, si vous avez suivi la série de messages sur cette épître, vous le devinez sans doute, c'est parce qu'à l'époque de Timothée, comme à la nôtre d'ailleurs, il y a ce que la Bible appelle des faux docteurs. Et les faux docteurs, ce sont des personnes qui, avec l'étiquette, le badge, si vous voulez, de chrétien, enseignent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça un faux docteur. Quelqu'un qui a un badge de chrétien, mais qui enseigne des choses qui sont contraires à la volonté du Dieu des chrétiens. Il nous faut donc être lucides et vigilants, et cela pour trois raisons. D'abord parce que, et c'est le plan du message, d'abord parce que l'Église est censée être dépositaire de la vérité. Ensuite, deuxième point, parce que la vérité a toujours été attaquée de façon plus ou moins subtile. Et troisième point, parce que sans la vérité, on est perdu. Et moi, sans cette bouteille d'eau, je serais aphone. Premièrement, donc, l'Église chrétienne doit prendre conscience de l'immense responsabilité qui est la sienne. Un peu plus tôt dans l'Épître, Paul avait dit et utilisé une expression absolument extraordinaire en disant que l'Église était la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Mais maintenant, il dit quelque chose de curieux à Timothée, il dit ceci, « Garde le dépôt ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le mot qui est traduit par « dépôt » ici n'apparaît, en tout cas sous cette forme exacte, que deux fois dans tout le Nouveau Testament. Une fois ici, en conclusion à la première lettre de Paul à Timothée, une deuxième fois dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, cette fois plutôt vers le début de la lettre. C'est un terme particulier, c'est un terme technique, c'est un terme commercial en fait, qui désigne quelque chose que l'on confie à la charge de quelqu'un d'autre. Quelque chose que l'on confie à la charge de quelqu'un d'autre. Et d'après le contexte et d'après l'emploi de ce mot d'ailleurs dans la deuxième épître de Paul à Timothée, mais d'après le contexte, on voit que Paul désigne par cette formule tout ce qu'il a transmis à Timothée en termes d'enseignement et d'exemple. En termes d'enseignement et d'exemple. Autrement dit, garde le dépôt, ça veut dire, Timothée, reste fidèlement attaché à ton ministère tel qu'il t'a été confié au départ. Ton ministère, Timothée, consiste principalement à enseigner la parole de Dieu qui t'a été confiée. Continue de le faire donc, Timothée, avec persévérance et avec fidélité. Garde le dépôt, garde ce qui t'a été confié, ce qui a été confié à ta charge, Timothée, garde-le fidèlement, avec persévérance. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul le dira ainsi, c'est dans 2 Timothée 2, verset 15, « Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Voilà ce que ça veut dire. Garde le dépôt. Pour Paul, la parole de la vérité constitue ce dépôt que Timothée est chargé de garder en tant que ministre de la parole. Ministre de la parole, c'est-à-dire en tant que pasteur. Paul est en train de rappeler donc à Timothée, en gros, qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec cette parole qui a été confiée à sa charge. Garde le dépôt, ça veut dire, Timothée, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec cette parole qui a été confiée à ta charge. Contrairement à d'autres personnes dont Timothée devait avoir connaissance et auxquelles nous reviendrons dans quelques instants. Il y a quelques semaines, des amis à nous sont partis pour un an à l'étranger et ils ont gentiment proposé, devinez quoi, de nous confier leur voiture pendant la durée de leur absence. C'est gentil, non? Ils ne nous ont pas donné leur voiture. Ils ne nous ont pas vendu leur voiture. Ils nous l'ont confiée. Ce qui veut dire que nous devons bien nous en occuper, bien l'entretenir, bien la surveiller et évidemment la conduire de manière responsable, sans quoi toutes les contraventions se retrouvent dans leur boîte aux lettres à leur retour des États-Unis, avec des majorations en plus. Hein? Pensez-vous que nos amis seraient enchantés si à leur retour, ils découvraient qu'on avait raccourci les amortisseurs pour lui donner un aspect un peu plus sportif, vous voyez, pour rabaisser la voiture, donner un aspect un peu plus sportif, s'ils découvraient qu'on avait remplacé les sièges par, vous savez ce qu'on appelle les sièges baquets, les sièges de rallye qui ressemblent à des sièges bébés pour bébés géants en fait, on avait remplacé les sièges par ça, s'ils découvraient qu'on avait installé un énorme aileron à l'arrière et qu'on avait repeint la carrosserie en rose et en noir, vous pensez qu'ils seraient enchantés? Bien sûr que non. Il y a des gens qui aiment tuner leur voiture. Vous connaissez ce terme? Tuner, le tuning, c'est quand on transforme une voiture. Bref, il y a des gens qui aiment tuner les voitures. Il y a des gens, vous savez, qui aiment tuner la parole de Dieu, la Bible. Qui aiment la mettre au goût du jour, qui aiment lui donner une allure plus attirante ou un intérieur plus confortable. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui aiment faire ça. Mais ce texte nous défend d'agir ainsi pour une raison pure et simple. C'est que la parole de Dieu, la Bible, ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas, elle n'appartient pas à l'Église, elle a été confiée à l'Église. Ce n'est pas la parole de l'Église, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas soumise à l'Église, c'est l'Église qui lui est soumise. L'Église n'est pas propriétaire de la vérité pour en faire ce qu'elle veut. Elle est dépositaire de la vérité pour la soutenir, la défendre et la dispenser avec droiture. Et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est que d'une part, nous devons garder une attitude d'humilité et de soumission devant la Bible. C'est à la Bible de nous éclairer, et pas à nous d'éclairer la Bible. On a toutes les raisons de croire que la Bible est entièrement digne de confiance. Elle est la vérité dont l'Église est dépositaire. D'autre part, nous devons manier la Bible avec le plus grand soin. Pas juste avoir une attitude d'humilité et de soumission, mais en plus manier cette Bible avec le plus grand soin, car elle ne nous appartient pas, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas lui faire dire n'importe quoi à la Bible. On ne peut pas et on ne doit pas lui faire dire n'importe quoi. Troisièmement, nous devons nous méfier, mes amis, des églises, des pasteurs, des sites internet, des livres soi-disant chrétiens, et même des groupes de musique soi-disant chrétiens. Qui peut-être sous couvert d'originalité, en réalité déforme le message de la Bible. Alors que vous soyez croyant ou non cet après-midi, je n'ai qu'un conseil à vous donner à ce niveau-là. Familiarisez-vous personnellement avec le contenu de la Bible. Familiarisez-vous personnellement avec le contenu de la Bible. Vous n'avez rien à y perdre d'ailleurs, et vous avez plutôt tout à y gagner. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est Paul qui, après avoir dit à Timothée de garder le dépôt, donc, Paul il lui dit maintenant d'éviter deux choses. D'une part, ce qu'il appelle les discours vains et profanes, et d'autre part, dans le texte, vous l'avez sous les yeux j'espère, les disputes de la fausse science. Paul est en train de se référer à quelque chose qu'il a déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette lettre, à savoir le problème que je mentionnais tout à l'heure, le problème des faux docteurs. Timothée était confronté, voyez-vous, à des gens, dans le cadre de son ministère, qui se disaient chrétiens, peut-être même qui se disaient pasteurs, ou évangélistes, ou théologiens, d'accord, auteurs à succès. Mais ces gens-là diffusaient des doctrines étrangères à la Bible, et ils étaient vraisemblablement motivés par leur motivation par leur ambition personnelle. Oui, ça fait du bruit derrière les fenêtres. Hein. Ils étaient vraisemblablement motivés par leur ambition personnelle. C'est ce qu'on découvre quand on lit le reste de l'épître. En disant à Timothée d'éviter cela, Paul est en train de lui dire de ne pas tomber dans les mêmes travers, tout simplement. Lui aussi, il est pasteur. Il est dans une position d'enseignement, une position d'autorité, de responsabilité. Timothée ne fait pas comme eux. Ne tombe pas dans les mêmes travers. Et pour lui faire comprendre, Paul utilise ici aussi des expressions qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en tout cas sous cette forme exacte, dans le Nouveau Testament. Concernant les discours vains et profanes, voici ce que dit Calvin. Et c'est vraiment chouette. Alors écoutez bien. « Je pense que saint Paul condamne la creuse éloquence et le babil enflé de ceux qui, non contents de la simplicité de l'Évangile, le convertissent en une philosophie profane. Ainsi, la vanité de voix ou de parole dont l'apôtre parle n'est point en certains mots qu'on profère, mais en cette continuelle résonance qu'écume ces bravaches ambitieux qui pourchassent la faveur du peuple plutôt que le profit de l'Église. Et saint Paul a très bien exprimé la chose, car bien qu'ils entonnent je ne sais quoi de grand, toutefois il n'y a rien dessous. C'est donc un son inutile qu'il appelle aussi profane, parce que l'efficacité de l'esprit est éteinte aussitôt que les docteurs, c'est-à-dire ceux qui enseignent en l'Église, enflent ainsi leurs cornemuses pour montrer leur éloquence et se faire valoir. La cornemuse, par ailleurs, c'est un très, très, très joli instrument, hein, mais l'idée, c'est qu'ils la remplissent d'air et que, bon, voilà, ça fait beaucoup de bruit et... Beaucoup de bruit pour rien. Aujourd'hui, on parlerait beaucoup plus facilement de démagogie. De démagogie. Quant à la deuxième expression, les disputes de la fausse science, Paul l'utilise pour désigner les débats subtils et interminables de gens qui font étalage de leur sagesse, en tout cas de ce que Calvin appelle cette sagesse fardée que le monde a en admiration et dans laquelle toutefois il n'y a édification quelconque. Autrement dit, Paul parle de cette apparence de sagesse, hein, cette cornemuse qui fait beaucoup de bruit mais finalement dont le son n'est pas si agréable que ça. Une apparence de sagesse, ou une apparence d'intelligence, ou une apparence de connaissance ou de culture. Vous connaissez le dicton, hein, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Vous connaissez, hein, je vous apprends rien. Ben, c'est un peu de ça dont il parle, cette apparence de sagesse, d'intelligence, de connaissance ou de culture, qu'on appelle science, mais qui en fait n'en est pas. Les disputes de la fausse science, dit-il. L'idée générale, en tout cas, c'est que Paul ne doit rien avoir à faire avec ce genre de discours, ce genre de méthode, ce genre de prédication grandiloquente qui a pour effet de séduire les gens et de les éloigner de la vérité. Parce que ce n'est pas conforme à la parole authentique de Dieu. Est-ce que vous connaissez la légende du joueur de flûte de Hamelin ? Je suis sûr que vous la connaissez. Hamelin, c'est une ville infestée par les rats à la fin du XIIIe siècle. Les habitants décident de demander l'aide d'un joueur de flûte et lui promettent 1000 écus s'il débarrasse la ville de ses milliers de petits rongeurs. Alors, par le moyen de sa musique, jouée à la flûte, eh bien, le musicien va attirer les rats et les mener jusqu'à la rivière où ils se jettent et se noient. Mais une fois la ville délivrée de cette plaie, les habitants reviennent sur leur promesse et au lieu de payer le joueur de flûte, ils le chassent en lui jetant des pierres. Quelque temps plus tard, le joueur de flûte revient à Hamelin et une nuit, il se met à jouer de la flûte de nouveau. Cette fois, ce ne sont pas les rats qui sont attirés, mais les enfants. 130 garçons et filles sortent de leur maison au milieu de la nuit et se mettent, selon la légende, à suivre le joueur de flûte au son de sa musique qui les envoûte. Et il les emmène alors loin de la ville jusque dans une grotte qui se referme derrière eux et jamais plus n'a-t-on revu ces enfants. C'est une horrible légende, n'est-ce pas ? Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que des joueurs de flûte comme celui-ci, comme le joueur de flûte de Hamelin, ou plutôt aujourd'hui on parlait de joueurs de pipeau, comme j'en parlais tout à l'heure, il y en a beaucoup autour de nous. Alors le pipeau, on a l'habitude de l'entendre à la télé, n'est-ce pas ? On a l'habitude de l'entendre à la télé, notamment pendant les périodes électorales, comme c'est le cas actuellement. On a l'habitude de voir du pipeau dans les articles de journaux ou sur Internet. Mais vous savez quoi ? Oui, merci pour votre avis, Denis. Mais le pipeau, ça existe aussi dans l'Église, malheureusement. Et ça, c'est plus triste à constater. La démagogie, ça existe dans l'Église. Et c'est souvent par le moyen de la démagogie que les faux docteurs attaquent la vérité. Pas plus tard que cette semaine, Jonathan, qui est dans la garderie actuellement, il fait... vous devriez suivre son exemple et aider à la garderie de temps en temps. En tout cas, Jonathan, cette semaine, a reçu un livre par courrier et il m'a donné l'autorisation de vous en parler. Et ce livre était accompagné d'une lettre très amicale. Dans cette lettre, il y avait quelques questions mystérieuses suivies de ce paragraphe. Je cite. « Si toutes ces questions sont toujours sans réponse, je vous invite à lire le livre que je joins à mon courrier, entre parenthèses, livre en total accord avec la parole de Dieu, fermez la parenthèse, ou à me contacter pour partager la parole de Dieu. Mon souhait est que vous receviez la bénédiction du salut et que notre merveilleux et glorieux Dieu a prévu, du salut que notre merveilleux et glorieux Dieu a prévu de toute éternité pour chacun de nous par la foi en l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. L'évangile prêché par les premiers disciples, le seul et l'unique évangile, le véritable évangile, l'évangile du salut. Fin de citation. En réalité, ce livre, pour l'avoir rapidement feuilleté, illustre parfaitement ce que Paul dit en introduction de son épître aux Galates, où il dit « Il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Anathème, ça veut dire qu'il soit excommunié. Hein? Bref, Paul nous fait comprendre qu'il ne faut pas se laisser séduire par une apparence de sagesse ou d'intelligence ou de connaissance, si impressionnante soit-elle. L'adversaire utilise ses stratégies pour nous embrouiller, pour nous troubler, comme il le dit aux Galates, pour chatouiller nos oreilles, pour nous envoûter comme le joueur de flûte de Hamelin et nous entraîner loin de la ville dans une grotte qui se referme derrière nous. Alors méfiez-vous, méfions-nous des apparences. D'accord ? La présence d'un livre dans une librairie chrétienne n'est pas une garantie de son contenu. Ce n'est pas parce qu'un artiste remercie Jésus dans la jaquette de son CD que les paroles de ses chants sont fidèles à la Bible. J'irai même plus loin. Ce n'est pas parce qu'une église est membre de la Fédération protestante de France que les pasteurs qui y prêchent ne peuvent pas être des hérétiques qui ne sont même pas chrétiens et qui méritent d'être, comme dit Paul, anathème, excommuniés, rejetés, loin de l'Église. Ce n'est même pas parce qu'un chant de louange est populaire dans nos propres milieux évangéliques que les paroles sont forcément fidèles à la Bible. Est-ce que nous en avons conscience de cela? Comme le dit Paul dans un autre passage, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'Église, premièrement donc, est dépositaire de la vérité, mais deuxièmement, les faux docteurs attaquent la vérité. Troisièmement, Paul ajoute une remarque au verset 21 pour faire mesurer à Timothée l'enjeu de cette exhortation finale et conclusive. Cette exhortation d'après laquelle il doit donc garder le bon dépôt, rester fidèle à la parole de Dieu telle qu'il l'a reçue, et deuxièmement, éviter les stratagèmes des ennemis de l'Évangile. Et cette remarque, au verset 21, elle consiste en quoi? Elle consiste à rappeler à Timothée que certaines personnes qui se sont engagées sur le chemin de la démagogie ont mal fini. Certaines personnes qui se sont engagées sur le chemin de la démagogie ont mal fini. Ces gens-là, dit Paul, en ce qui concerne la foi, ils ont manqué le but. Ce que Paul veut dire tout simplement, c'est qu'à force de manipuler abusivement la Bible, à force de l'instrumentaliser, ces gens-là ont fini dans une situation qui ne valait pas mieux que celle d'un non-croyant. Ils ont raté le coche, ils ont manqué le but, ils étaient à côté de la plaque en ce qui concerne la foi. Et en disant cela, vous voyez, Paul veut faire mesurer à Timothée l'enjeu de la fidélité ou de l'infidélité à la parole de Dieu. Il y a un enjeu important. De cette fidélité à la parole de Dieu dépendent beaucoup de choses, et des choses extrêmement importantes. En fait, c'est tout le message de l'Évangile que Paul résume par le mot « foi ». Quand il dit « en ce qui concerne la foi, ils ont manqué le but », il veut dire « en ce qui concerne l'Évangile, en ce qui concerne tout le message évangélique, tout le message biblique, ils ont manqué le but ». En ce qui concerne l'espérance de l'Évangile, ils ont manqué le but. En ce qui concerne donc le salut des hommes, ils ont manqué le but. Et pourquoi ont-ils manqué le but dans ce domaine? Parce qu'ils se sont détournés de la parole authentique de Dieu. Vous voyez l'enjeu. Vous voyez l'importance de l'enjeu. La foi qui sauve repose sur la vérité. Le salut des hommes repose sur la vérité. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Imaginez que vous soyez un naufragé sur une plage inconnue avec d'un côté l'océan à perte de vue et de l'autre côté une jungle hostile. Et vous êtes naufragé là sur cette plage avec quelques autres rescapés, et par miracle, quelqu'un tire de sa poche un grand bout de papier un peu froissé, et c'est une carte de la région. Quel miracle! vous arrivez à repérer à peu près l'endroit où vous vous trouvez sur la carte, et vous voyez qu'il y a un village à 5 jours de marche à travers la jungle. Vous proposez donc aux autres de vous fier à cette carte et d'essayer de rejoindre ce village. Mais quelqu'un a une autre idée. Et si on retournait la carte, et qu'on écrivait au dos de la carte un message, un appel à l'aide, et qu'on mette cette carte dans une bouteille et qu'on la jette à la mer? Quelle folie, lui rétorquez-vous. Cette carte, c'est notre salut. Il faut la préserver à tout prix. Ok. Le lendemain, vous êtes en train de traverser la jungle et quelqu'un dans le groupe s'ouvre profondément le mollet sur une branche particulièrement pointue. Et la personne saigne beaucoup, hein. C'est inquiétant. À défaut d'une meilleure idée, quelqu'un propose d'utiliser la carte, puisque c'est le seul papier qu'on a, d'utiliser la carte pour essuyer le sang et l'utiliser comme une compresse pour essayer de stopper le saignement, vous voyez. Jamais de la vie, lui dites-vous. Cette carte, c'est notre salut. Il faut la préserver à tout prix. Deux jours plus tard, le groupe est très éprouvé, chaque nuit fait très très froid, et tout grelottant, à 1h du matin, quelqu'un dans le groupe propose de chercher un peu de bois sec et d'utiliser la carte comme allume-feu pour que tout le monde puisse se réchauffer. Pas question. Impossible, lui dites-vous, n'avez-vous pas compris? Cette carte, c'est notre salut. Il nous faut la préserver à tout prix. Eh bien, cette carte, voyez-vous, mes amis, pour nous, êtres humains, aujourd'hui, c'est la Bible. Il nous faut la préserver à tout prix. Et pourquoi? Parce qu'elle nous indique le chemin du salut. Elle nous indique où nous sommes, comment on y est arrivé, et par où passer pour s'en sortir. Est-ce que vous savez, vous, cet après-midi, pourquoi votre vie n'est pas un long fleuve tranquille? Est-ce que vous savez pourquoi vous allez mourir un jour? Est-ce que vous savez ce qui vient après, si tant est qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous pensez, cet après-midi, qu'on peut se passer d'avoir une opinion sur ces questions? Mes amis, comment pourrais-je le dire plus clairement? La Bible est le seul document qui nous donne des réponses fiables à ces questions. La Bible est le seul document en notre possession qui nous donne des réponses fiables à ces questions. La Bible nous livre un message clair, simple et incontournable. C'est qu'en plaçant toute sa confiance en Jésus mort et ressuscité, l'homme peut être délivré de sa culpabilité. Il peut être réconcilié avec Dieu. Et il peut recevoir l'assurance de la vie éternelle. Le message de la Bible est clair. Il est simple à comprendre. Il est incontournable. Et c'est celui-là. Jésus-Christ est mort sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, le juste, innocent et parfait qu'il était. Il est mort à la place d'un grand nombre de pécheurs pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, pour qu'ils soient en paix avec Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, pour qu'ils soient réconciliés avec celui qui les a conçus et créés, et pour qu'ils passent l'éternité en sa présence. Est-ce que ce n'est pas un message incontournable? Est-ce qu'on peut s'en passer de ça? Est-ce qu'on peut le déformer? Est-ce qu'on peut le cacher, le dissimuler aux gens? Est-ce que ce ne serait pas coupable de dissimuler ce message aux gens, ou de le déformer, ou de l'instrumentaliser? Ce message est d'une si haute importance qu'on ne peut pas instrumentaliser la Bible pour lui faire dire n'importe quoi, sans en même temps hypothéquer le salut des hommes. Et c'est ça l'enjeu que Paul veut faire mesurer à Timothée à la fin de sa lettre. En ce qui concerne la foi, les gens qui agissent comme ça ont manqué le but. Ils ont hypothéqué l'espérance de l'évangile. Et par conséquent, le salut d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors voilà pourquoi Paul finit par une expression très, très courte. Il finit par invoquer la grâce protectrice de Dieu sur toute l'assemblée de l'église de Timothée, l'assemblée d'Éphèse donc, en disant ceci, que la grâce soit avec vous. Vous avez remarqué qu'il a tutoyé Timothée jusqu'ici. Tout d'un coup, il le vouvoie. Non, il ne le vouvoie pas. Il est en train de dire « vous » pour désigner tous les membres de l'église de Timothée. Il invoque la grâce protectrice de Dieu sur toute l'assemblée. Car il sait que ces chrétiens-là, les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens de l'église de Timothée, sont en proie aux attaques subtiles de certains faux docteurs qui se sont détournés de la parole authentique de Dieu. Et vous voyez aussi pourquoi, en conclusion à toute cette lettre, Paul a donc voulu rappeler à Timothée l'importance, le caractère impératif de rester attaché à la parole authentique de Dieu. Car l'Église est dépositaire de la vérité, car les faux docteurs attaquent la vérité, car la foi qui sauve repose sur la vérité. Et vous, cet après-midi, est-ce que vous êtes attaché à la parole authentique de Dieu? Ou bien est-ce que vous êtes facilement séduit par les discours qui sonnent bien, sans prendre le temps de comparer le contenu de ces discours avec le contenu de la Bible? Je l'ai déjà dit, l'étiquette chrétien ne garantit rien. Le badge, l'emballage cadeau ne garantit rien. La fidélité aux Saintes Écritures est la seule chose qui constitue une garantie. Mais peut-être, cet après-midi, peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Et que vous ne croyez même pas à la Bible. Alors vous vous en fichez un peu, finalement, de ce que je suis en train de dire. Je vous comprends parfaitement. Mais je vous pose une question franche, à laquelle j'espère que vous allez réfléchir. Pourquoi n'y croyez-vous pas à la Bible? Pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce que vous l'avez lu déjà? Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles les chrétiens, quant à eux, se fient à la Bible? Vos amis chrétiens, y compris moi-même, on serait ravis de discuter de tout ça avec vous. Mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est que vous rencontriez celui qui résume en sa propre personne tout le message de la Bible, à savoir Jésus-Christ, celui qui en est le centre, celui qui a dit qu'il était lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage, je termine avec ceci, nous, et il englobe les chrétiens, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, et ça c'est le message de tous vos amis chrétiens, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui. Nous vous en supplions, au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est capable de vous sauver, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, prenez le temps de lire la Bible, de vous familiariser personnellement avec son contenu. Prenez le temps de discuter avec vos amis croyants. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour tout le message de cette première épître de ton serviteur Paul à un autre de tes serviteurs, Timothée. Merci pour tout ce que nous avons pu apprendre au travers de ce texte. Merci notamment pour ce soir. Et ce que tu as pu nous dire, et nous prions Seigneur que cette vérité que tu nous donnes dans ta parole, eh bien qu'elle prenne racine dans notre cœur et qu'elle porte du fruit dans notre vie, à ta gloire. Amen.